Actu SF, les podcasts.
Bonsoir, merci d'être ici malgré l'heure tardive. Nous allons parler donc de monde virtuel, je dirais de cette espèce de passage, de pas sur le côté que l'on peut se permettre de faire en bande dessinée peut-être plus facilement que dans un quelconque autre média. Et pour discuter donc de ces nouvelles possibilités scénaristiques, j'ai à ma droite donc Hassen, qui va nous parler de son travail avec Boulet sur Bolshoï Arena. On voit passer quelques petites images, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient complètement nettes. Mais bon. Non, oui, elles sont toutes en lien. Donc on a Thomas Calden, merci d'être ici, et Joseph Falzon. Je vais vous laisser un petit peu vous présenter au fur et à mesure, mais vous avez déjà tous travaillé finalement ensemble, en fait. Hein, vous avez déjà collaboré sur des projets et sur d'autres au gré de votre parcours. Si Joseph peut commencer un petit peu à nous parler de son parcours et ensuite on va un petit peu plus parler de ce qui nous amène ici ce soir sur vos deux albums respectifs.
Moi j'ai commencé la bande dessinée en 2008 et j'ai rapidement rencontré Thomas. On a collaboré ensemble sur une série, c'était une BD novella, donc, qui s'appelait Les Autres Gens. C'était une BD à lire sur internet avec beaucoup de dessinateurs qui participaient. Et donc on s'est rencontrés comme ça, on a fait ça quelques années. Ensuite on a fait le spin-off ensemble des Autres Gens qui s'appelait Romain et Augustin, Un mariage pour tous. Et on se retrouve après quelques temps sur Altlife.
Et au départ, l'intitulé Mariage pour tous, c'était pas celui de départ, non? Il me semble que ça a pris, je dirais, le vent de l'actualité presque malgré non, soi. Ou...
C'était une réaction, en fait, un petit peu. Voilà. C'était un spin-off qui était. Parce qu'en fait, les autres gens, c'était quelque chose qui se passait. Comme c'était diffusé en ligne tous les jours, il y avait un épisode par jour et l'épisode du jour se passait le jour de sa diffusion. Donc il y avait un côté où on essayait d'être en phase avec l'actualité et tout ça, et puis ça s'est arrêté en 2012. Et quand il y a eu les débats ensuite sur le mariage pour tous et toutes ces choses-là, on avait des personnages qui étaient restés en suspens en fait, avec l'arrêt de la série, mais ils n'étaient pas morts. Enfin, ça faisait 2 ans et demi qu'on suivait leur vie. Donc on a eu envie de les retrouver et on avait fait une série pendant 2 mois sur le Nouvel Obs autour de ça, qui est devenu un bouquin chez Delcourt. Voilà. Mais oui, on a bossé sur les autres gens, on a bossé tous les trois ensemble. Voilà.
Et donc Hassan, un petit peu sur ton parcours, et par le plus grand des hasards, on se retrouve ce soir sur quasiment un même thème de base, en fait, mais avec des interprétations complètement différentes.
Oui, complètement. On parle de réalité virtuelle, mais d'aspect, un angle de vue complètement différent. Alors, moi, c'est particulier parce que je ne suis que le dessinateur, alors que là, vous avez l'équipe au complet. Donc, je pense que Boulet serait plus à même que moi de parler d'exploration spatiale et de rigueur astronomique. Et quoi qu'il en soit... L'approche dans Bolshoï Arena est à la fois économique, sociale et spatiale principalement. Et voilà. Je sais alors, pas comment le
si tu peux nous
mieux
faire,
le définir alors, en fait.
Sans dévoiler le futur, mais si tu peux nous faire un petit résumé de ce que l'on découvre dans ce premier tome en fait.
Alors c'est un premier tome qui est un tome d'introduction. Donc, c'est-à-dire qu'on découvre les personnages principaux et on découvre à travers la protagoniste principale le fonctionnement donc, du Bolshoï, qui est une simulation du monde et de l'univers à partir de données réelles, mais que la technologie humaine ne permet pas encore d'explorer. Et à travers toutes les données scientifiques et théoriques qu'on a, et recréer l'univers. Et dans le Bolshoï, on peut aller explorer toutes les planètes, car on n'est pas soumis aux mêmes contraintes physiques et technologiques que dans la vraie vie. Je ne sais pas si c'est très clair, mais on peut aller sur Saturne, par exemple.
Oui, ça
et une représentation très fidèle de Saturne, vu que c'est basé sur des vrais chiffres et sur des vraies choses, mais on n'a pas les fusées nécessaires pour y aller, nous. Mais dans le Bolshoï, on peut y aller. Et comme le réalisme est poussé à l'extrême, on a vraiment l'impression d'y être, en fait. Et se crée une économie parallèle et tout ce que ça peut engendrer comme vénalité et comme rivalité. Du coup, ça crée des méchants et des gentils.
Et alors, sur cette interprétation de ce que l'on va découvrir derrière, en fait, est-ce que Thomas, donc, tu peux nous expliquer un petit peu aussi, sur l'histoire de Alt-Life, finalement, que vont découvrir les protagonistes et quel est l'intérêt, finalement, de ce passage à la virtualité?
Dans Alt-Life, l'intérêt, il est très concret, c'est-à-dire que le point de départ, c'est que le monde dans lequel sont nos protagonistes meurt. Et en fait, au lieu de quitter la Terre pour aller coloniser une autre planète, ce qui est un peu compliqué, finalement, l'humanité décide de partir, mais pour partir dans un monde virtuel. Donc, pour le dire un peu, pour ceux qui les ont vus, c'est un Matrix conscient, on va dire. C'est le point de départ, c'est-à-dire que dans Matrix, l'humanité n'est pas consciente de vivre dans le virtuel. Là, l'humanité fait le choix de vivre dans le virtuel et du coup, ça implique que le virtuel dans lequel elle va se projeter, c'est elle qui le façonne comme elle le désire. Et là, on est dans quelque chose de très différent de Bolshoï Arena parce qu'on est justement dans une humanité qui va décider de créer un virtuel précisément parce qu'il est virtuel et parce que tout est possible. On va assumer ce choix de l'étendue des possibles, de laisser la maîtrise de son univers à chaque personne qui l'intègre. Et nos deux personnages principaux sont des jeunes gens qui vont faire un an tout seuls dans cet univers-là pour tester un petit peu la chose avant que le reste de l'humanité n'entame sa migration du réel au virtuel.
Oui, on suit les découvertes de Josiane et René.
Ouais.
Mais est-ce que...
Des prénoms qui reviendront à la mode dans les années 30.
Le fait de faire partir justement dans cet autre monde, en fait, un couple, entre guillemets. Parce que
au départ, ce n'est pas un couple. Hein.
Voilà,
c'est deux personnes qui ne se connaissent pas.
Alt-Life, disons, il y a quand même une belle connotation érotique et sexuelle dans leur découverte, en fait.
Ah bah oui, clairement. C'est-à-dire qu'on a deux personnages qui sont jeunes, qui sont pleins de vie et fougueux, qui ne se connaissent pas donc, au départ, qui vont intégrer un monde virtuel dans lequel tout est possible. Et c'est un point de départ comme un autre. Hein. C'est Boulet qui disait que lui, son premier truc, ce serait d'aller visiter Pluton. Ce que je comprends tout à fait. Peut-être qu'en ce qui me concerne, ce serait peut-être mon deuxième truc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui...
Quel serait ton premier truc?
J'en sais rien, non, je ne sais pas.
Pour lire Alt-Life pour le découvrir,
c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a on le voit avec Internet, on le voit aujourd'hui aussi avec l'économie de la réalité virtuelle. Les premiers secteurs dans lesquels ça marche, en général, c'est les secteurs de la pornographie ou des choses comme ça. Et tout simplement parce que tout est à portée de main, et tout est possible. Et là, ils arrivent dans un monde virtuel où tout est possible, le moindre fantasme, le moindre désir. Et ça me paraît assez logique de penser que ces deux jeunes gens vont explorer cette question-là. Et en plus, pour nous, c'est extrêmement pratique parce que c'est un très bon moyen d'explorer leur caractère, leur intimité.
Alors on est dans une traduction graphique assez ligne claire. J'ai l'impression qu'on est presque dans la lignée de l'exploration sexuelle de la technologie, un peu façon le déclic de Manara. Est-ce que c'est une paternité qu'on pourrait revendiquer ou...
J'ai pas du tout pensé à Manara en le dessinant. Je crois que c'est la première fois qu'on l'évoque. C'était plutôt effectivement... Il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'allers-retours. Au début, les planches ne ressemblaient pas du tout à ça. sur comment représenter ce monde virtuel. Et donc, on est parti vers cette ligne claire très froide, parce qu'on voulait comment représenter ce virtuel, mais en même temps, tout ce à quoi ils ont affaire, ça sort de leur imaginaire. Mais pour montrer ce décalage, on voulait de la froideur, quoi. Donc une ligne claire. Et donc c'est plus de la bande dessinée classique, effectivement, mais plus du Moebius, par exemple, sur les mondes d'Edena, ou des choses très classiques comme du Garpe Jacobs, ou pour certaines pages, alors qu'on ne voit pas là, mais... Où il y a beaucoup de détails, beaucoup de pleines pages comme ça, plus une influence à la Jeff Darrow, qui est un dessinateur américain, qui fait des grands dessins comme ça, avec énormément de détails, et très propre comme ça.
Voilà. Et avec un peu un renversement de perspective, des choses comme ça, puisque du coup ça correspond bien à cet aspect virtuel où quasiment tout est possible en fait. Est-ce que cet engouement, le fait de se dire je dirais presque collé à la réalité, à savoir un petit peu comme vous aviez fait sur le mariage pour tous, cette possibilité technologique qu'offre le fait scénaristique de se dire on met toute l'histoire du jour au lendemain, ou enfin d'une page sur l'autre dans un autre monde, du coup c'est un champ des possibles énorme en fait qui s'offre au scénario.
Oui.
Est-ce qu'on va avoir d'autres explorations? Alors, je sais pas, Half-Life 2 avec un autre aspect.
Je suis en train d'écrire la suite. Mais en fait, c'est... Comment dire? Quand tout est possible, d'une certaine manière, c'est là qu'on interroge le cœur des choses, quoi. Et c'est un bon moyen, en l'occurrence, d'interroger ce qui fait notre humanité, ce qui fait les relations entre les personnes, comment elles s'expriment, comment elles se construisent, et ce qui reste en fait quand on n'a plus de... quand on est hors de la contrainte. Et c'est ce qui arrive au personnage en fait. Et en fait, c'était aussi une manière, plus que la question de l'étendue de tout ce qu'ils peuvent faire et du fait que tout soit possible. C'était aussi une manière d'évoquer plein de choses qui relèvent des questions qui ne se posent pas aujourd'hui ou qui se posent difficilement parce qu'elles sont contraintes. C'est-à-dire, et qui sont en train d'émerger par Internet, par la vie qu'on a en ligne et par les doubles vies qu'on peut s'inventer ou qu'on peut se créer. Le fait d'avoir un avatar, par exemple, et de parler à travers cet avatar. Je suis très intéressé par la question du mensonge, par exemple, qui dit la vérité. C'est-à-dire, par exemple, quand on peut s'inventer une autre vie aujourd'hui en ligne, plus ou moins. Enfin, on peut se créer. Je ne parle pas de manière creepy. Hein, je parle juste de pouvoir s'exprimer autrement, de s'imaginer un autre. Et ça interroge forcément sur ce qui nous contraint et les moments où on se sent plus libre, éventuellement, d'être autre chose ou d'expérimenter autre chose ou d'explorer d'autres trucs. Et là, en fait, ils sont dans un univers où ces questions-là, en tout cas la question de ce qui les retient, ne se posent plus. Ils peuvent tout faire sans jugement, sans problème technique, sans problème, sans contingence physique. Cette possibilité infinie, en fait, elle va les confronter aussi tout simplement à eux-mêmes. Et ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'être, et comment ils veulent être vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des autres, et ensuite, évidemment, dans l'histoire, l'un par rapport à l'autre.
Et on voit bien que dans la découverte, je dirais un peu débridée de cette sexualité sans limite, il y a aussi des questionnements sur où est-ce qu'on peut s'arrêter sans se nuire soi-même, ou nuire à l'autre, ou... arriver à des choses plus ambiguës, enfin plus dangereuses, plus
perturbantes. Ils ont l'avantage au début, en tout cas, parce qu'ils sont que tous les deux, de ne pas nuire à grand monde, parce qu'ils sont face à des êtres virtuels, on va dire. Il y a une fois où la question de... Il y a quelques règles qui sont établies assez vite, parce qu'on nous explique qu'il y a une sorte de... Juste après la scène qu'on voit à l'écran, là, où c'est Josiane qui va, parce qu'ils sont entourés là, toutes les personnes qu'on voit autour d'eux sont des personnes qui n'existent pas, donc sont des personnes virtuelles, et ils sont assez fascinés de voir que si on touche l'épaule de quelqu'un, on a exactement la sensation de toucher une épaule véritable, et qu'il n'y a aucune différence avec ce qu'ils avaient avant d'entrer dans l'œuf qui les emmène là, et là où ils sont aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette sorte de confusion totale. La virtualité se traduit par le pouvoir qu'elle leur donne. Elle ne se traduit pas par quelque chose de visible. Quand ils y sont, ils ont l'impression d'être dans l'eau, ils ont l'impression de marcher sur du sable et de toucher des vrais gens. Et donc, il y a deux, trois règles, et notamment, il y a une règle, c'est de toujours demander. Et donc là, au tout début, Josiane, elle voit un type et elle lui fout la main au paquet et elle est immédiatement dégagée par des trucs de manière non douloureuse. Mais on leur explique tout de suite que c'est pas parce que ce sont des personnages qui n'existent pas qu'il faut pas. Et en fait, on l'explique comme une sorte de règle de civilisation, c'est-à-dire que c'est pas parce que il faut qu'on garde un minimum de règles, voilà. Donc cette question de se nuire ou de, c'est plus après la question de l'exploration personnelle, c'est-à-dire jusqu'où on explore le vertige en fait.
Mais le fait par exemple de toucher effectivement les autres et de s'apercevoir que c'est des créatures finalement irréelles, donc la position du respect vis-à-vis de l'autre, c'est un petit peu ce qu'on retrouve, moi je trouve, dans la bande dessinée avec Boulet et Hassen, à savoir qu'on peut détruire l'autre, on peut transgresser une règle, disons, de son monde réel, on peut la transgresser, sachant que normalement on croit qu'il n'y aura pas de conséquences, et on s'aperçoit dans les deux récits qu'il y a finalement des conséquences. Et est-ce que cette limite, elle est obligatoirement finalement artificielle? Parce que dire simplement on met les personnages dans un autre monde, on ne peut pas simplement dire voilà, tout est permis, parce que finalement en termes de scénario, j'imagine que là, c'est encore plus difficile s'il n'y a pas ces règles, justement, que tu évoques.
Ben, c'est plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça dépend ce qu'on choisit de raconter. Là, les règles, les quelques règles qui sont posées, finalement, elles ne posent pas beaucoup de problèmes. Par exemple, juste après, on a le personnage de René qui veut... comment dire, Il veut qu'une femme lui montre ses seins, enfin un truc, et il pose la question, il demande à la personne qui est à côté de lui, donc qui est un être virtuel, et il est dans un café à ce moment-là, il s'est projeté dans un café pour prendre son petit déjeuner en bouquinant, et il se tourne vers sa voisine, il lui dit bonjour, il lui demande si elle peut lui montrer ses seins, elle lui montre ses seins, et là en fait il est effectivement extrêmement troublé parce que il a réglé la question du consentement, on va dire, en demandant. Évidemment, elle a dit oui parce qu'elle n'est pas là pour dire non, elle est un être virtuel, voilà. Et ce qui se passe, c'est pas la règle qui pose problème, c'est la facilité, c'est l'absence de comment dire, justement l'absence de contrainte et l'absence, enfin, comment dire, c'est trop évident, c'est trop facile, tout est trop facile, tout est là, tout est, il y a plus de difficultés, il y a plus d'enjeux finalement, parce qu'il suffit de vouloir pour avoir. En fait, Josiane et René intègrent un monde d'enfants gâtés ou une sorte de paradis avant le péché, où il suffit de vouloir pour avoir.
Oui, après avoir joué un petit peu avec tous leurs jouets, ils se retrouvent un peu blasés par moments par cette.
Complètement, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je disais que c'est un univers à partir du moment où justement il n'y a plus de limites, c'est à l'individu qui se trouve au cœur de ça. D'arriver à se sauver de cette montagne de possibilités et d'arriver à trouver comment il va survivre finalement c'est écrasant, enfin je pense en fait on a deux personnages, il y a Josiane qui est assez pragmatique et on l'observe en fait accepter le fait que ce sont des choses irréelles mais qui sont possibles. Et René, qui finalement va avoir besoin de se retrancher un petit peu en lui-même pour pouvoir retrouver l'imagination sans conséquences, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire imaginer des choses ou lire des choses sans qu'elles existent, sans qu'on les ait forcément, devoir faire un petit effort vis-à-vis de soi-même, devoir se contraindre. Et c'est toutes ces questions-là en fait qui sont posées. Et la question du monde virtuel ou même aujourd'hui déjà d'Internet ou tout ça, c'est un petit peu la question de la facilité. Et je dis ça sans le moindre jugement. J'ai absolument pas la moindre opinion là-dessus. Si c'est bien, si c'est pas bien, tout ça. Mais c'est des questions qu'on est obligé à un moment ou à un autre soi-même de se poser. Qu'est-ce que ça signifie en fait de tendre la main et d'obtenir.
Oui, cette auto-régulation, elle vient presque d'une morale finalement que portent en eux-mêmes Josiane et...
Bah, c'est une éthique qu'ils vont devoir s'inventer en tout cas oui.
Du point de vue graphique est-ce que le fait de passer d'un monde réel à un monde virtuel ça vous donne envie aussi de je dirais d'explorer je sais pas de nouvelles perspectives de nouvelles compositions qui pourraient peut-être paraître plus osé ou moins lisible dans une bande dessinée plus classique.
Là, je pense que ça reste assez classique dans Alt-Life au niveau des cadrages. C'est plus dans ce que ça représente. C'est-à-dire que, alors là, pour le coup, il y a pas mal de pleines pages avec des décors qui se déploient,
oui, des rôles, justement,
des baleines. À un moment, il y a René qui lit dans une bulle. Il est accroché au-dessus d'une baleine et alors il y a plein de il y a des poissons partout. Ça donne la possibilité de faire des cases assez qui se déploient en fait avec l'imaginaire vraiment de René qui se déploie. Après dans les cadrages pas vraiment mais je pense que c'était par rapport à tout ce qui est déjà représenté rajouter des perspectives étranges et tout. Je pense que ça aurait été peut-être un peu trop.
Et quand tu voyais arriver les planches scénarisées. À aucun moment, tu dis Thomas, là, qu'est-ce qui se passe
Non,
c'est maintenant.
On va bien
pour la suite. La suite est beaucoup plus compliquée en fait, graphiquement.
En fait, bizarrement, la suite dans le tome 2, il y a moins de planches avec énormément de détails. Mais c'est plus l'enjeu va être dans le découpage en fait, dans la narration. Comment raconter cette histoire parce que. Le danger dans une histoire comme celle-ci, c'est de perdre le lecteur, parce que c'est les personnages. Il suffit qu'ils sont dans un décor, ils sont à la plage, ils pensent qu'ils sont dans un appartement. Le décor peut changer d'une case à l'autre.
Bah là, on le voit par exemple entre la case 3 et la case 4, où elle porte une sorte de robe en peau de bête là, et dans la case suivante, sans qu'on l'explique, sans qu'on l'explicite, sans qu'on dise rien, elle est en maillot. Là, c'est rien, c'est un tout petit détail, mais l'air de rien, ça exprime assez bien ce qui se passe ensuite tout au long de la bande dessinée, c'est-à-dire que l'action est extrêmement fluide, les dialogues se continuent, ils sont toujours dans une sorte de même, un petit peu comme s'ils marchaient, et que d'un moment à l'autre, tout d'un
il y a
coup,
des
il,
cuts,
il y a, il y a, alors même que rien n'a, enfin que le mouvement est toujours le même, le décor a changé, leurs vêtements peuvent avoir changé, la lumière aura changé, et ça n'a aucune incidence.
Donc la difficulté, elle est là, c'est ne pas réussir à ce que le lecteur ne soit pas en permanence en train de se demander qu'est-ce qu'il est en train de lire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le décor est comme ça et pas pourquoi il a changé.
Et combien de tomes est prévu ? Enfin, combien de tomes sont prévus ?
Deux pour l'instant.
Oui, on sent bien que.
Non, mais idéalement.
Ça reste ouvert.
Idéalement, ça serait trois. Mais en fait, on les a vraiment écrits et pensés. Là par exemple le premier volume on dit il se suffit à lui-même, il y a pas un suspense à la fin. On est vraiment dans un truc où c'est surtout une question d'exploration, c'est-à-dire que on a deux personnages qui sont très installés dans cet univers-là, qui sont devenus des sortes de qui le maîtrisent parfaitement. Et on a envie de continuer sur d'autres thèmes, en fait, de poursuivre un petit peu, de tirer davantage les fils qu'ils ont commencé à trouver et d'aller encore plus loin et d'explorer d'autres questions, d'autres choses. Donc, en fait, le prochain, il reprend les mêmes personnages. On est dans la chronologie, on est dans la suite, mais il n'y a pas un
ils vont cesser, ils vont passer à autre chose que d'explorer le corps des autres.
Bah voilà, là, au bout d'un moment, la question est un petit peu réglée.
C'est un petit peu on évoquait cet après-midi avec Fabien Wellman et Gwen Bonneval la bande dessinée Polaris, c'était la limite de la sexualité entre guillemets libre, à savoir jusqu'où on peut aller et peut-être qu'est-ce qu'on revient à autre chose ou à. Ou ou est-ce que le but c'est réellement la réalisation du fantasme, ou est-ce que justement il faut juste peut-être le garder juste dans l'ombre en fait?
Bah là pour le coup, dans la BD en tout cas, il y a une sorte de pas de normalisation par rapport au fantasme, mais dans leur vie, c'est-à-dire que chacun va trouver un niveau acceptable en fait, naturel on va dire, de prendre en considération ce rapport au corps et à la sexualité. Et dans la suite, en fait, le peu qu'il en reste, c'est pas moins. C'est juste que ça n'est plus un enjeu de récit parce que justement, c'est quelque chose qui est complètement normalisé. C'est-à-dire que chacun a un rapport qui lui est propre et qui lui est naturel et qui est devenu normal de satisfaire les envies ou les fantasmes ou le désir qu'il pourra avoir. Et ensuite, on explore la question après de la persistance du désir dans un univers, là, encore une fois, où... finalement, est-ce que désirer, c'est pas aussi ne pas pouvoir, en tout cas dans une certaine mesure, ne pas pouvoir atteindre tout de suite, quoi. Attendre un peu.
Et est-ce que dans les moult prochains tomes, nous aurons un peu une présentation aussi du monde réel, finalement, qui est quand même, lui aussi, hyper intriguant. Cette société qui en est arrivée là.
Moi, j'ai pas d'informations là-dessus.
Moi, je le trouve pas si intriguant que ça, en fait, ce monde réel, parce que je le vois comme vraiment une sorte de suite d'une autre assez logique, c'est-à-dire un monde qui se casse la gueule, quoi. Et voilà, mais alors après, c'est pas un monde qui se casse la gueule avec les. C'est un monde qui arrive à tenir debout, mais d'une manière. Enfin, on a tous les moments où on est dans le monde réel, on va dire. Les gens n'ont pas l'air d'être en mauvaise santé ou particulièrement souffrants, quoi. Ils sont plutôt bien, ils rigolent et ils travaillent, quoi. Mais ils n'ont qu'une envie, c'est de partir parce que ça pue, parce que parce qu'il faut se protéger de l'extérieur, parce que le ciel est devenu sinistre, parce que tout est gris. Enfin, et en fait, il y a un désir de fuir.
Je ne sais pas si effectivement le monde réel, c'est peut-être pas forcément la chose la plus intéressante. Ça a déjà été le monde qui va mal, qui est trop pollué, c'est quelque chose d'assez classique en SF. Je pense que le plus original, c'est ce qui est raconté dans le. C'est ce qui a été raconté dans le tome 1, c'est cette nouvelle forme d'exploration, en fait, qui pour le coup est quelque chose.
Mais là, sur le premier tome, et c'est ce qu'on ressent aussi avec la bande dessinée Bolshaï-Rana avec Boulet et Hassen, c'est que. Je dirais cette simple possibilité d'avoir une récréation virtuelle, en fait, on est en pleine addiction, quoi. Que ce soit par la joie entre guillemets du monde qu'il découvre d'un côté, ou voilà une vraie addiction pour le personnage aussi mis en scène avec Boulet et Hassen. En tant que lecteur, on se dit ils vont jamais revenir dans le monde réel.
Ah quoi. Non, c'est mais c'est pas l'objet. C'est des pionniers. Hein. Dans l'esprit de notre esprit, c'est des pionniers. C'est-à-dire qu'ils sont là pour explorer. C'est un petit peu comme si on était. C'est les avant-postes des fermiers qui partent dans le Far West et qui vont pour s'installer. Donc eux, ils vont explorer ce qui se passe, et éventuellement donner des informations aux suivants en disant faites gaffe à ça, faites gaffe à ça. Dans notre esprit, on est vraiment. Je parlais tout à l'heure d'aller sur notre planète, c'est pareil. C'est-à-dire que eux, ils arrivent dans ce pays de cocagne, on va dire, où tout est formidable et il faut explorer ça. Et ça ne va pas sans danger, ça ne va pas sans difficulté, ça ne va pas sans conséquences. Mais la limite par rapport à cette question de l'addiction ou de c'est que finalement. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais il y a une forme là encore. Il faut, on explore, on comprend, on connaît, et puis on s'installe. Voilà. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'objectif de retour. Donc, ça change complètement le rapport qu'ils ont à ça. Ils sont pas coincés dans un jeu, par exemple. Ils n'ont pas une forme d'addiction en disant je veux plus. Je dois sortir parce qu'il faut que j'aille pisser, il faut absolument que je revienne, je dois sortir parce qu'il faut que j'aille bosser, et ça me fait chier parce que pendant toute la journée, je vais attendre de pouvoir revenir à mon jeu. Eux, ils y sont, et ils y sont pour toujours, de toute façon.
Oui, ce retour à la réalité, on l'a plus du côté de Bolshaï-Rana. Ouais.
Oui, même si c'est un jeu qui contient de multiples jeux et de multiples activités, mais dans Bolshaï-Rana, la réalité virtuelle est déjà acquise et bon nombre de la population s'est sous-entendu et joue à ce jeu il est dans le Bolchoï et c'est complètement intégré à la vie, comme aujourd'hui on va sur Internet toute la journée, sur nos téléphones ou sur nos ordinateurs, sans qu'on passe pour des geeks ou des gens qui se coupent de la vie réelle. C'est complètement intégré. Et le personnage principal, donc, elle, par contre, est une étudiante très sérieuse en astrophysique qui ne connaît pas le Bolchoï et le découvre et devient très vite, effectivement, comme vous disiez, addict à cet univers. Mais il y a un aspect moins philosophique, pour employer un mot un peu facile, que dans Alt-Life, c'est-à-dire que c'est l'aspect ludique et il y a beaucoup de questions qui sont éludées, notamment par rapport au corps dont on parlait. Dans le Bolchoï, on se choisit un avatar, alors qu'il me semble que dans Alt-Life, ce sont les enveloppes charnelles originelles des gens qui sont représentés.
Au départ, en fait, ils sont à l'image de ce qu'ils sont. Après, ils sont libres d'en faire ce qu'ils veulent.
Mais ils restent toujours sous forme humaine, a priori.
Parce qu'au départ, ils le veulent.
Non, voilà. Il y a vraiment cette idée que c'est on va dire que c'est l'avatar de par défaut, quoi. Voilà.
D'accord.
Ils jouent avec leur enveloppe un peu.
Enfin, bref. Oui, ils jouent pas mal avec leur enveloppe. Hein. Excusez-moi.
Avec leur apparence, je veux dire.
Alors, c'est vrai que le côté cartoon et jeu est sans doute plus représenté par le fait qu'un des personnages principaux a choisi d'être un corgi, par exemple. Un autre qui, dans la vraie vie, est petit et chétif, est un robot hybride avec des membres qui peuvent se décupler pour pouvoir construire des vaisseaux gigantesques en restant juste debout en dessous. Et ça permet, effectivement, enfin, même dans la foule, il y a des gens un peu de... Bon, peut-être pas en l'occurrence sur cette case-là, précisément, mais sur une autre scène de foule, j'ai essayé de dessiner toutes les échelles possibles et différentes de personnages en mélangeant un peu d'heroic fantasy, de science-fiction à la Star Wars.
Joseph nous parlait de Moebius tout à l'heure, toi, par rapport à ta virtuosité du trait, parce qu'il y a quand même une richesse graphique assez impressionnante dans Bolchoï Arena. Si tu peux nous citer dans ton parcours des influences, entre guillemets, des maîtres à penser, c'est bien grand mot, mais...
Bah, mes influences sont assez évidentes, donc je suis très inspiré par le manga, et donc par Katsuhiro Otomo principalement. Quand j'ai vu Akira au cinéma, quand j'étais petit, j'avais juste la limite d'âge et j'étais allé avec un copain. Ma mère n'a pas voulu nous accompagner parce que ça lui faisait peur. Elle avait vu la bande-annonce avec Tetsuo éventré. Mais elle nous avait laissé y aller quand même. Et ça avait été effectivement très violent parce que j'étais habitué aux dessins animés du Club Dorothée qui sont plutôt mignons.
Ça peut être violent, mais c'est pas pareil.
Ils sont pas tous mignons, mais la plupart sont inoffensifs. Et Akira était vraiment une très grosse claque à 12 ans. Et après, ça a été traduit et publié en français. Et donc, j'ai acheté chaque fois qu'il sortait en fascicule coloré. Et c'est quelqu'un que j'ai gardé tout au long de ma carrière de dessinateur, même si mon style a évolué avec les années. Je suis passé par d'autres influences, notamment pendant mes études d'art. Mais j'y suis finalement revenu et j'ai eu longtemps du mal à l'assumer. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et j'essaye toujours de m'en rapprocher. Et sachant que je n'y arriverai pas, je suis très rassuré. Parce que je sais que c'est comme ça que je trouverai ma voie.
Bah là, c'est une belle voix quand même. Merci à ta maman, parce que sinon, le Bolchoï Arena avec l'esthétique du Club Dorothée, ça n'aurait pas été la même chose, je pense.
Bah, cela dit, j'ai une référence à l'AMU dans Bolchoï Arena, donc c'est aussi une référence un peu au Club Dorothée, quelque part. Enfin, il y a de multiples références à ces années-là. Donc,
Et est-ce que Boulet a parlé d'un nombre de tomes quand vous vous êtes lancé dans
Oui, alors il y aura.
Et comment ça s'est passé d'ailleurs, parce que
Boulet et surtout notre éditeur nous a dit 3 tomes, ok, et plus si ça cartonne.
Il y a fini
les enfants. Et donc 3, c'est sûr. Et après, Boulet a assez de choses à mettre dedans pour remplir beaucoup de tomes. supplémentaires, mais l'histoire qu'il veut raconter originellement tient en 3 tomes.
Et comment s'est fait la rencontre, en fait? Parce que l'univers de Boulet, même au niveau scénario, on en est un peu loin, là. Donc comment...
ben, Boulet, c'est quelqu'un que je connais depuis pas loin de 15 ans maintenant. On était amis avant de travailler ensemble. On s'est rencontrés à la grande époque des blocs BD au milieu des années 2000, en 2004-2005. Et on s'est vus continuellement sur les salons, en soirée, etc. Et on n'avait jamais travaillé ensemble. Et alors que je terminais mon projet précédent, il m'a proposé de la science-fiction. Il m'a dit qu'il y a plein de gros vaisseaux à dessiner, des batailles spatiales. Et comme je faisais une bande dessinée qui se passait à l'époque, quand la Première Guerre mondiale, qui était très, très austère, j'ai pris ça comme une libération. Parce qu'en plus, c'était en couleur. Et je pouvais faire a priori ce que je voulais visuellement.
Et combien de temps pour la réalisation d'un tome ?
Ça s'est étalé sur 3 ans, mais je n'ai pas travaillé 3 ans en continu dessus. J'ai fait une pause entre le trait et la couleur, par exemple. J'ai déménagé, j'ai eu un enfant. Ça fait beaucoup de
pauses. Oui, là, c'est pause
de pause, voilà. J'ai fait d'autres travaux aussi, de l'illustration. Donc... je dirais que mis bout à bout, ça fait à peu près 2 ans environ de travail.
Et là, vous travaillez tous sur des projets parallèles, j'imagine, puisque les albums sont sortis, il y a des petites choses dans les cartons dont qu'on peut évoquer.
Là, devant moi, j'ai Benjamin Adam avec lequel je travaille sur Hope. Sur un projet de, c'est aussi d'un projet dans le futur, une sorte de post-apo positif, qui se passe en l'an 2150 quelque chose, 151, voilà. Sur notre bonne vieille planète, et cette fois-ci, il n'y a pas de monde virtuel. C'est l'homme, bah là, c'est presque une sorte d'alternative à Alt-Life, enfin de vision alternative. C'est, le monde s'est cassé la gueule et on n'est pas parti dans un monde virtuel, il a fallu reconstruire. Donc on est dans cette optique-là, avec le tout avec une grande réflexion sur la conquête spatiale. Je suis un peu paumé dans mes projets, là, parce que j'en ai quelques-uns. Je sais plus. Et bref, j'ai pas mal de choses. J'ai écrit 2 jeux vidéo aussi, en ce moment. Mais ça, c'est un travail sur un temps très long, parce que c'est un truc d'ailleurs qui est vachement intéressant à faire, parce que déjà, ça me sort complètement de la bande dessinée. Et déjà, ça, c'est intéressant de sortir de sa zone de confort et de se confronter à d'autres contraintes. C'est un truc très contraint. En fait, mon écriture est dépendante du travail des développeurs, de tout ça. Donc là, par exemple, ça fait 6 mois que j'en ai pas entendu parler. Normalement, dans un mois, ils vont revenir vers moi pour faire plein de trucs, et puis ensuite ils repartiront dans leurs choses. Enfin bref, c'est pas trop compliqué à gérer en termes d'emploi du temps. On est sur la suite donc d'Alt Life.
Comment ?
Oui, j'ai une BD avec Loïc Sécheresse qui commence aujourd'hui, en ce moment. Et puis voilà, enfin bref, mais ça c'est le scénario, il y a beaucoup de choses. Les dessinateurs, ils sont un peu obligés ouais. D'être...
Voilà. La scène, tu as aussi fait dans le jeu vidéo avec l'iconoclaste Fibre Tigre, si j'ai bien compris.
Oui, mais c'était pas du jeu vidéo, c'était de la bande dessinée.
D'accord.
Comme Fibre Tigre est quelqu'un de très créatif et protéiforme, il a voulu raconter un feuilleton avec une super-héroïne française qui s'appelle le Ruban Bleu. Et effectivement, en 2013, on a fait ça au rythme d'un épisode par jour, donc un strip par jour, en noir, blanc et bleu. Et c'était très bien écrit, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On voulait passer au papier, mais Fibre Tigre n'aime pas le milieu de l'édition, et il trouve que c'est un milieu un peu vieillot. Et on n'a pas trouvé d'offres satisfaisantes, et bref, après on a chacun fait nos projets.
Et il t'a pas embarqué sur un projet de jeu vidéo avec son studio et tout ça?
Bah écoute, non. Bon. Non, il est où, pas spécialement.
Tu parles du milieu de l'édition un peu vieillot d'après Fibotier.
Alors c'est pas mon avis, hein, c'est l'avis de Fibotier.
Mais
qui est aux Utopiales. Je sais pas s'il est. Non, il est pas là. Il est aux Utopiales, mais je sais pas.
Oui, je crois qu'il va venir. Il vient chaque année. Mais non, c'est quand même une bonne question aussi le milieu de l'édition justement, parce que il faut quand même peut-être en parler, parce que quand on parle de projet de bande dessinée, de projet d'album, il faut voir dans quel contexte ça va pouvoir se projeter. Et vous en pensez quoi, vous, de tout ça?
C'est une vaste question, Thomas.
Il y a quand même eu pas mal de débats. Enfin, moi, entre Mariage pour tous et aujourd'hui, il y a eu d'autres débats concernant la bande dessinée.
Les autres gens, c'était déjà une sorte de... Enfin, c'était pas un manifeste, mais il y avait un côté essayer de s'autonomiser, on va dire, par rapport au mode de production classique de la bande dessinée, donc via l'édition. Donc c'était numérique, c'était sur abonnement et... Et ça a flingué 2 ans de ma vie où j'ai pas vécu parce qu'il fallait porter le truc. Et voilà. Mais c'était génial à faire et c'était très intéressant. Et ça m'a beaucoup appris et ça m'a permis de rencontrer une centaine de dessinateurs quand même qui ont bossé dessus. Donc c'était une expérience assez chouette. Et effectivement, qui s'est faite un petit peu en marge de l'édition. Je dis un petit peu parce que rapidement, il y a eu une publication papier et tout ça. Ensuite, moi, j'ai bossé aussi sur le feuilleton Instagram Été. Qui a été diffusé l'été dernier, l'été précédent, qui était produit par Arte, et qui était de la bande dessinée numérique aussi, qui était diffusée sur Instagram au rythme d'un épisode par jour, dessiné par Erwan Surcouf le premier été, et par Cécile Bidot le deuxième. Et là, c'est intéressant parce que sur toutes les nouvelles formes de bande dessinée, on va dire toute la bande dessinée numérique, et ça avait été le cas aussi pour Cyclope à l'époque, on se rend compte que c'est l'audiovisuel en fait, qui finance, parce qu'ils ont des obligations de production, notamment sur les nouvelles écritures, beaucoup plus que... Enfin, le milieu de la bande dessinée, en fait, s'y intéresse depuis le début, s'intéresse à... Enfin, surtout au niveau des auteurs. Déjà, il y a toute une génération d'auteurs qui est née sur Internet, donc qui est née, qui a appris à construire son travail, à le présenter, à se faire connaître et tout ça, de manière très autonome des éditeurs. Qui ensuite est allé vers l'édition pour faire des livres, pour grandir, on va dire. Mais les éditeurs, évidemment, se sont intéressés assez vite aux diverses possibilités, en étant toujours très dubitatifs sur les possibilités économiques. Et au niveau donc, de la création, on va dire, sans les considérations, on va dire, économiques, justement, au niveau des initiatives créatives, eh bien... Faute de moyens dans le milieu classique de l'édition et du livre, c'est souvent vers les chaînes publiques que les financements se sont trouvés. Donc essentiellement France Télévisions et Arte. Sur Été, par exemple, on a bossé avec Arte. Il y a eu l'expérience Falena il y a quelques années, qui était une expérience de BD numérique, comme une sorte de fresque, je crois. Enfin, je ne me souviens plus. Très bien, mais qui était assez saisissante. Et c'était France Télévisions. Il y a énormément de choses comme ça qui sont... Donc, après, c'est toujours pareil. Le milieu de l'édition, on parle de quelque chose... On parle du livre qui est sans doute le médium le plus moderne de l'histoire de la création des médiums parce que c'est un truc totalement autonome qui contient énormément de choses et qui est autosuffisant. Enfin, moi, je suis assez fasciné par le livre en lui-même. Je trouve que c'est un objet d'une modernité qui n'est pas encore contre laquelle on ne peut pas vraiment rivaliser. Mais ça ne m'empêche pas de trouver extraordinaire le reste des choses qui peuvent être faites et qui, à mon avis, effectivement, manquent un petit peu de souffle, d'accompagnement, on va dire.
Du coup, le côté transmédia peut être une prolongation de l'exploitation de la bande dessinée classique du livre et permettre du coup à des auteurs d'autres sources de revenus sur un même projet,
je sais pas. Moi, je l'ai fait par exemple l'été, la deuxième saison. Je crois pas qu'il y ait de contrat d'édition, ça suffit. Voilà, moi j'ai vécu dessus, enfin j'ai été payé pour le faire, la dessinatrice a été payée pour le faire, tout le monde a été payé pour le faire, et de manière complètement indépendante de l'existence ou non d'un livre derrière, et c'était valable pour Été 1, même s'il y a eu un livre derrière, de toute façon, on était la production, on va dire, parce que c'était vraiment un modèle de production un peu comme dans l'audiovisuel. A été faite de manière complètement autonome, en dehors du livre. Le livre, c'est un bonus. Le seul problème de ça, c'est qu'on est dans des secteurs où la production le principal impératif de ces modes de production, c'est la nouveauté. C'est-à-dire que les chaînes doivent produire des choses innovantes. Et ça interdit la pérennité, en fait. Ce qui est paradoxal, éventuellement problématique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu de normalisation, en fait, de ces nouvelles écritures, de ce nouveau moyen de raconter ou pas. En tout cas, pas sur les marchés européens. En Corée, ils sont au numérique depuis très longtemps. Ça, économiquement, ça ne pose aucun problème. Les dessinateurs dessinent et c'est un gros marché. Enfin, ça existe.
Je pose quand même la question, si est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je ne sais pas si on peut faire passer un micro. Merci.
Bonsoir. C'est une question pour Thomas Cadenne. Une réflexion et une question. La réflexion, c'est je vois une comparaison troublante entre l'album Samedi et Dimanche de Gwen de Bonneval et Fabien Vellman par rapport à l'idée du pays de cocaïne. Je me suis demandé si c'était une source d'inspiration pour Alt Life. Puisqu'à un moment donné, le personnage de Dimanche peut faire tout ce qu'il veut, puis il s'aperçoit qu'en fait, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Enfin bon, c'est une réflexion. La vraie question qui était derrière, c'est pour les deux personnages, Josiane et René, sur quoi tu t'es appuyé pour leurs deux directions ? Une intuition des gens que tu connais par rapport à du virtuel, qu'est-ce qui t'a amené à ces deux trajets-là ?
Je pense que non, c'est personne. C'est les nécessités de l'exploration et c'est probablement en grande partie moi-même. C'est-à-dire que il y a un effet de dissociation. On pose deux personnages, comment dire ? En fait, à l'écriture, J'ai une direction, j'ai une trajectoire, j'ai un objectif. Et là, en l'occurrence, la plupart du temps, j'ai des personnages qui sont assez solidement établis. Là, en l'occurrence, j'avais des personnages qui étaient relativement neutres, on va dire. Et c'est pour ça que je dis moi-même. Donc, je connaissais la nécessité de les distinguer par le caractère. Et au tout début, on a une scène de dialogue où, en fait, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Enfin non, la deuxième fois qu'ils se rencontrent, après leur expérience sur la plage et tout ça, où ils sont un petit peu tranquilles et dans une ambiance un peu nocturne et ils discutent. Et je me souviens que c'est une des scènes dans laquelle j'ai fabriqué les personnages par leur dialogue. En fait, c'est un petit peu comme de découvrir j'écrivais comme si je les entendais parler et comme si je les rencontrais concrètement pour la première fois. Donc au départ, il y avait une forme d'utilité et ensuite il y a eu une forme de rencontre et ensuite j'ai développé ce que j'avais compris d'eux. Et donc c'est pour ça que je pense que, pour le dire plus simplement, à mon avis, c'est deux émanations de moi-même. Comme c'est souvent le cas, mais là en l'occurrence, peut-être plus qu'ailleurs, c'est deux tendances qu'on peut avoir parce qu'ils sont finalement les caractéristiques de base qu'ils peuvent avoir sont assez évidentes. Il y a une forme, il y en a une qui est plus dans l'exploration et l'autre qui est plus dans la retenue. Dans les deux cas, comme ils sont confrontés à la même énormité, ils sont dans un effet de réaction, quoi. Donc voilà, et deux réactions très très différentes qui finissent par converger. Et au moment où ça converge, d'ailleurs, c'est là qu'il s'éloigne de moi, parce que sinon, ça devient un truc un peu incestueux entre moi et moi-même. Et là, je les ai amenés un peu plus loin, ailleurs, quoi. Ils se sont cassés du ventre du père et ils ont fait autre chose, quoi.
Il y a d'autres questions ? Au niveau accueil du livre, comment ça se passe ? Pour At Life, quels sont les retours des lecteurs?
On a eu un très bon retour critique, en tout cas. Donc ça, c'était quelque chose qui fait plaisir. Et les retours des lecteurs, Non. En général, ce qui est vachement intéressant, c'est quand on a des... C'est compliqué parce que les lecteurs, on les rencontre souvent avant la lecture. les seuls lecteurs dont on connaît la lecture sont les gens qui en font la critique, donc souvent les journalistes, choses comme ça. Donc là, on a été plutôt chanceux, on va dire, parce qu'on a eu de très bons retours. Et sur les lecteurs qu'on a rencontrés qui viennent en dédicace, par exemple, et qui ont lu le livre, en général, là, c'est assez passionnant, enfin, en tout cas très intéressant, parce que c'est un livre qui forcément va amener, enfin forcément, en tout cas on espère, va amener le lecteur à se confronter lui-même à ces questions, aux questions qui sont posées dans le livre, à se poser des questions qui ne s'étaient pas nécessairement posées. Et donc ça, et puis surtout à s'approprier toutes ces questions-là, à les faire siennes, et donc il nous propose sa lecture et donc son livre en fait. Donc c'est, enfin moi c'est toujours une confrontation que je trouve vraiment très intéressante entre le livre qu'on a voulu faire, enfin et qu'on a fait, et le livre du lecteur qui est jamais tout à fait le même que celui qu'on a fait. Et c'est, enfin moi c'est, enfin je trouve que ça c'est quelque chose d'assez passionnant. Et ça c'est vraiment un livre en plus qui génère beaucoup de choses, donc de manière assez intéressante.
Oui, on a plus l'impression que la réalité virtuelle entre guillemets est une excuse en fait pour travailler sur le rapport à l'autre en fait.
Un prétexte. Ouais. Oui, oui, bien sûr, un petit peu, oui. Mais ceci pour travailler notre rapport. Ça, c'est un petit peu, je reprends un petit peu ce que disait Hassane tout à l'heure, c'est-à-dire que toutes ces questions-là, c'est un petit peu les questions aussi de. C'est un peu comme dans Bolshoï Arena, on n'est pas si loin de ça que ça, en fait, aujourd'hui, quoi. Si on regarde, comme il disait, si on regarde le temps qu'on passe concrètement sur un ordinateur, on passe souvent plus de temps à parler, enfin, ça dépend des gens, mais. À parler avec les gens en tapant sur un clavier qu'en réalité. On passe beaucoup de temps à regarder des choses sur un écran qu'en réalité. Enfin, aujourd'hui, quand même une énorme partie du monde, et ça c'est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité, et je ne suis pas certain qu'on le mesure très bien encore, mais disons depuis 15 ans, une énorme partie du monde, sinon la majorité du monde qui nous parvient, elle nous parvient, alors s'il y avait la télévision avant, mais pas dans cette proportion-là, nous parvient par un écran, quoi. C'est plat et c'est ça nous voilà c'est, et ça c'est quelque chose que de toute façon je pense oui c'est ce qu'on fait les uns comme les autres à travers ces albums là c'est on extrapole quoi on extrapole quelque chose d'assez concret d'assez présent.
Et donc à propos d'autres albums Hassen dans tes projets est-ce qu'un jour on aura la chance ou le plaisir de te voir aussi à l'écriture de ta propre histoire.
Oui, bah vous avez déjà l'occasion, j'en ai déjà fait deux ouais. En mon nom tout seul.
Bon, ça tombe.
Au début de ma carrière. Et Le Palais de Glace à l'employé du mois qui parle qu'est-ce qui est le plus proche de ce qui est de Bolshoï Arena jusqu'à présent. J'ai tant même bien. Fait
cool pas.
Un ou deux liens dans Bolshoï Arena vers cette bande dessinée en grande partie autobiographique. Et sinon, pour mes projets, bah, tout simplement, je travaille sur le tome 2. Et à mon avis, je travaillerai sur le tome 3 après. Donc, c'est assez simple, finalement.
C'est parti. Bon, bah, écoutez, je vous remercie bien de votre présence. Et, bon, on a eu une confirmation quand même ce soir que les scénaristes parlent plus que les dessinateurs. Mais je vous remercie tout de même d'avoir été présent à nos côtés.
Merci.
Merci à vous. Passez une bonne soirée.